Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une femme qui n'a pas joué un rôle considérable dans l'histoire, qui n'a même pas fait grand-chose d'extraordinaire, et dont pourtant tout le monde a parlé à un moment donné, avant qu'elle retombe dans un oubli tout aussi profond que l'avait été sa célébrité. Je veux parler d'une dame qui s'appelait Svetlana Iosifovna Stalina, c'est-à-dire la fille de Joseph Staline. Alors, évidemment, dans le tourbillon de l'histoire de l'URSS, de l'histoire du monde, de l'histoire de la guerre mondiale, Svetlana, Alléluia, n'a pas une place considérable. Mais c'est quand même intéressant de suivre un peu son parcours. Je rappelle simplement que Staline, né en 1878, a eu une première épouse géorgienne, puisque lui-même était géorgien. Cette épouse s'appelait Yekaterina Svanidze. Elle était plus jeune que lui, et ils ont eu ensemble, en 1907, un fils, Yakov, dont on aura l'occasion de reparler par la suite. Malheureusement, Ekaterina Svanidze est morte l'année même de la naissance de Yakov. Et Staline s'est retrouvé veuf. Et quand il s'est remarié, il a épousé également une femme plus jeune que lui, d'origine géorgienne, Nadiezhda Alidouyeva. Nadiezhda Alidouyeva est née en 1901 et peu de temps après son mariage avec Staline, ils ont eu un fils, Vassili, et puis en 1926, une fille, Svetlana. C'est cette Svetlana dont nous allons parler à présent. Alors, une chose qu'il faut savoir, si on veut s'intéresser à elle, c'est que sa mère, la seconde épouse de Staline, s'est suicidée en 1932. Elle s'est suicidée symboliquement le jour où l'URSS célébrait la Révolution, le 8 novembre. Même parce que la Révolution d'octobre, avec le calendrier religieux, pour les Russes, se fête en novembre. Et sa fille, Svetlana, à l'époque, eh bien, elle avait 6 ans. On lui a longtemps, très longtemps, caché que sa mère s'était suicidée. Il n'était pas question, pour le pouvoir à l'époque, d'admettre que l'épouse de Staline ait pu se suicider. On a parlé de crise d'appendicite qui avait mal tourné, bon. Et ceux qui savaient ont fait très attention de ne rien dire. Alors, si on reprend la famille de Joseph Staline, il y a le demi-frère aîné Yakov, né en 1907. Après, il y a Vassili, le premier enfant, le fils, avec Nadiezhda Alidouyeva, et enfin sa sœur, Svetlana. Ils sont trois et dans la famille, ce n'est pas forcément des relations franches et amicales. Alors, comment peut-on être dans les années 30, puisque Elle est née, Svetlana est née en 1926. Comment, dans les années 30, peut-on être la fille de Joseph Staline? On l'a su, en gros, parce que Svetlana a bien voulu raconter. Bon, évidemment, est-ce qu'il faut faire entièrement confiance au souvenir de Svetlana, à ce qu'elle a écrit? Oh, peut-être sur l'essentiel, oui. Elle a raconté comment à l'école, où elle n'allait jamais toute seule, elle était toujours accompagnée de deux gardes du corps. Comment à l'école, les professeurs, instituteurs et autres limitaient systématiquement des bonnes notes. Il fallait surtout pas déplaire, au grand chef. Sa fille était géniale. Par contre, une chose qui est sûre, il est probable, plus que probable, que Staline a eu une préférence très marquée pour sa fille. Il avait deux fils, mais apparemment, c'est vers sa fille qu'il se sentait le plus admiré, surtout. Ce qui est logique, Svetlana avait une admiration sans borne pour son père. Son frère, Vassili, son frère aîné, avec la même mère, était alcoolique. Il n'arrêtait pas de faire des scandales. Et alors, la petite Svetlana, elle a grandi dans ce milieu protégé, où elle ne s'occupait de rien, où tout était fourni, elle n'avait besoin de rien acheter, elle n'a jamais su ce que voulait dire avoir de l'argent de poche. Elle n'en avait pas besoin, tout était fourni. Et, par exemple, elle raconte que lorsque les premières stations de métro ont été inaugurées à Moscou, Svetlana a demandé à son père de venir avec elle visiter le métro. Scandale. Il était impensable que Staline, en personne, pénètre dans le métro. Et pourtant, il y a eu un reportage où on montrait Staline et à côté de Svetlana dans le métro, accueilli par des passagers enthousiastes. En fait, on sait très bien que les passagers enthousiastes en question étaient des agents du service secret déguisés pour la circonstance. Pour donner un autre exemple, évidemment, la fille de Staline est devenue pionnier. Il était impensable qu'un enfant qui voulait faire quelque chose ne soit pas un pionnier. Et elle a, comme les autres, chanté les chansons de pionniers, prêté le serment des pionniers, admiré un personnage qui était encensé à l'époque, Pavlik Morozov. Alors, Pavlik Morozov, je pense qu'à notre époque, ça n'était plus grand-chose à grand monde. C'était tout simplement un enfant de 13 ans, un pionnier, qui avait dénoncé son père aux autorités parce que ce père-là avait dissimulé un seau de céréales dans sa grange. Le père de Pavlik a été pris par les autorités, a été fusillé. Et les gens du village, pour venger le père, ont tué le jeune Pavlik. Et pourtant, Pavlik en a fait un héros. Et alors, Svetlana va naviguer dans ce milieu clos, dans ce monde d'intrigues. En 1936, elle apprend le décès de Maxime Gorki, dont on dit qu'il est mort après avoir mangé des produits empoisonnés. Elle va entendre parler de la mort de Kirov, qui aurait été commandé par le Kremlin. Elle découvre certaines choses au hasard, des conversations qu'elle ne comprend pas toujours, c'est une gamine quand même. Notamment lorsque la veuve de Lénine vient voir Staline pour lui demander qu'on enlève le corps de Lénine du mausolée. La veuve de Lénine, Krupskaya, a toujours été contre le fait qu'on mette son mari dans un mausolée. Et Staline lui a répondu « Si vous continuez à nous importuner, nous trouverons une autre veuve au camarade Lénine. » Voilà dans quelle ambiance a grandi Svetlana. Et comme de l'ironie, en russe, Svetlana, ça évoque la lumière. On pourrait traduire Svetlana par le mot « lumineuse », celle qui illumine. Et le diminutif, vous savez que les Russes s'appellent la plupart du temps par le diminutif de leur prénom, le diminutif c'est Sviet. Sviet, c'est à la fois la lumière et le monde.
Партизанские отряды занимали города.
Et nous arrivons au 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne commence à envahir la Russie, l'URSS, pardon. Étonnante aventure, puisque on sait aujourd'hui de façon certaine que plusieurs personnalités avaient averti, prévenu Staline que Hitler s'apprêtait à envahir l'URSS. Notamment Churchill l'avait prévenu. L'espion Sorg, qui travaillait au Japon, l'avait prévenu. Staline n'avait rien voulu entendre, et puis le 22 juin 1941, c'est l'invasion. Et là, pour Svetlana, il y a quand même une chose qui se passe dans sa famille. Son demi-frère, avec qui elle s'est toujours mieux entendue qu'avec son frère Vassili, et son demi-frère Jacob, est fait prisonnier. Il est fait prisonnier par les Allemands, et c'est l'angoisse dans la famille, parce que l'épouse de Jacob sait que si jamais Jacob était libéré par les Allemands, il serait automatiquement arrêté à son retour en URSS. Staline avait décrété que les Russes qui étaient faits prisonniers par les Allemands, s'ils étaient libérés, ce qu'ils étaient des ennemis du peuple. D'ailleurs, Jacob n'a pas été libéré, mais sa femme a été arrêtée comme complice d'un ennemi du peuple. Oh, je rappellerai simplement que Jacob fait prisonnier. Les Allemands ont proposé à Staline d'échanger Jacob contre le maréchal von Paulus, pris au siège de Stalingrad. Et Staline a répondu, et ça plusieurs témoins ont rapporté la chose, on n'échange pas un capitaine contre un maréchal, il laissait son fils prisonnier. Et Jacob n'a eu d'autre solution que le suicide, il s'est jeté sur les barrières électrifiées du camp où il était retenu. Pendant la guerre, c'est aussi le moment où Svetlana découvre que sa mère n'est pas morte d'une crise d'appendicite, mais qu'elle s'est suicidée. Pour elle, c'est un choc épouvantable. Alors, seule, alors que son père fait face à l'invasion allemande, elle tombe amoureuse d'un metteur en scène, plus âgé qu'elle, marié, qui s'appelle Alexei Kapler. Le résultat ne se fait pas attendre, parce que de plus, Kapler est juif. Il est arrêté en 1943, déporté. Il ne sera libéré qu'en 1954, après la mort de Staline. Il sera même réhabilité, mais je pense que cela lui importait peu. Alors, Svetlana reste toujours seule. Elle pense un moment devenir écrivain. Son père n'arrête pas de lui dire, mais fais quelque chose. Alors, elle va à la fac, elle suit les cours. Et finalement, elle finit par se marier. Alors, c'est un peu une particularité chez les enfants de Staline. En fait, Svetlana s'est mariée 4 fois. Mariée légitimement, je veux dire. Elle s'est mariée 4 fois. Vassili s'est marié 3 fois, 4 fois aussi. Jacob, 3 fois. C'était peut-être une façon d'exorciser leur peur. Et en 1953, c'est la mort de Staline. Thank you. Dans son livre de souvenirs, Svetlana, qui a repris le nom de sa mère par la suite, Alilouyeva, mais qui à l'époque était Svetlana Stalina, raconte dans ses souvenirs donc la mort de son père, comment elle a été convoquée par Beria et Khrushchev notamment. Elle raconte les derniers instants de son père de façon assez extraordinaire. Et en 1956, elle reçoit un coup de téléphone de Mikoyan qui lui fait lire avant le congrès le rapport que Nikita Khrushchev a présenté au congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Dans ce rapport, Khrushchev dénonce les crimes de Staline, le culte de la personnalité et commence ce qu'on a appelé par la suite la déstalinisation. Svetlana, la fille de Staline, raconte que, choquée par ce rapport, elle est redescendue en disant « Oui, mais tout est vrai. » Et alors, en 1962, un jour, elle décide, ne croyant plus au communisme, elle décide de se faire baptiser, elle est baptisée dans l'église orthodoxe. Prudemment, le prêtre qui la baptise ne marque pas dans ses registres. C'était trop dangereux et pour elle et pour lui. Et puis, en 1966, elle a fait la connaissance d'un communiste indien qui s'appelle Brajesh Singh. Et ce Brajesh Singh, avec lequel elle n'a jamais été mariée, de toute façon elle était déjà mariée en Inde, meurt en URSS. Svetlana demande aux autorités la permission d'aller en Inde pour ramener les cendres de Brajesh Singh. On lui accorde cette permission. Elle arrive en Inde avec les cendres de Brajesh Singh. Et puis là, stupeur, peu de temps après, elle quitte son hôtel à New Delhi pour se réfugier dans l'ambassade des États-Unis et demander l'asile politique. C'est une énorme panique. D'abord parce que l'ambassadeur américain à New Delhi ne sait pas trop quoi faire d'une réfugiée aussi encombrante. Première chose qu'il fait, il téléphone à Washington pour demander des ordres, enfin disons des directives au gouvernement américain. Lyndon Johnson, le président, ne tient pas du tout à récupérer la fille de Staline. Il est en train de mener des négociations avec l'URSS, accueillir la fille de Staline. En même temps, ça jette une ombre au tableau. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire de la fille de Staline qui est toujours réfugiée à l'ambassade américaine à New Delhi? Alors, l'ambassadeur américain trouve une première voie de sortie. Il fait embarquer Svetlana Alilouyeva, il a fait embarquer dans un avion à destination de Rome. Arrivé à Rome, c'est un scandale épouvantable. Le chef du gouvernement italien ne tient pas du tout à récupérer la fille de Staline dans les rues de Rome. Surtout que la presse a commencé à s'emparer de l'histoire. C'est un scandale à l'échelle planétaire et les Russes commence à trouver la plaisanterie un peu saumâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de la fille de Staline qui est toujours dans une ambassade à Rome? Alors, ni une ni deux, on l'embarque dans un autre avion pour Genève. À Genève, même problème. le gouvernement suisse ne tient pas du tout. Mais alors pas du tout à s'attirer les foudres du gouvernement soviétique en accueillant la fille du dictateur Staline. Et au bout de plusieurs mois, exactement le 22 avril 1967, elle débarque enfin à nous, aux États-Unis. C'est la fin, croit-on, de ces pérégrinations. Au début, l'arrivée de Svetlana est considérée un peu comme un miracle. Elle a toutes les télévisions à ses pieds, d'autant plus qu'elle a obtenu pour un manuscrit une avance sur recette considérable. On dit, je vous avoue que c'est ce que j'ai lu, je n'ai pas vérifié, on dit qu'elle a reçu une avance sur recette pour ses mémoires, plus importante que celle qui avait été versée à Winston Churchill pour ses mémoires. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, toujours est-il, cela est sûr, qu'elle a gagné quand même énormément d'argent. Le problème, c'est que Svetlana Alilouyeva, Stalina, n'a jamais su compter. Elle a toujours été prise en charge totalement, que ce soit pour ses déplacements, pour ses distractions, pour sa nourriture. Il y a toujours eu quelqu'un qui l'a prise en charge. Et elle n'a jamais su vraiment ce qu'était que la vraie vie, ce que c'était que avoir à économiser, ce que c'était que d'avoir à compter, ce que c'était que d'avoir à acheter quelque chose à la boutique du coin. Et alors là, bizarrement, elle va se marier une quatrième fois. Elle va se marier avec un Américain et il va avoir une fille, Olga. En partant du RSS, Svetlana a laissé deux enfants sur place. En sachant très bien que ces deux enfants, Yossif et Katia, que ces deux enfants risquaient gros en restant en URSS alors que leur mère avait fui par l'Inde, Rome, Genève, puis les États-Unis. Elle est partie. Et là, elle se remarie, elle a un enfant, une fille, Olga. Pourquoi, brusquement, alors que elle ne sait plus très bien où elle en est financièrement, brusquement, elle décide de rentrer en URSS. Stupéfaction. L'ambassadeur du RSS à Washington est ravi. C'est un peu le retour de la brebis égarée au bercail. Elle arrive donc en URSS. Elle y retrouve son fils. Sa fille refuse de la voir. Et puis, tout aussi brusquement, elle comprend qu'elle n'a plus rien à faire en URSS. Elle réabandonne ses enfants. Elle repart avec sa dernière fille née aux États-Unis, Olga. Elle repart aux États-Unis. Et la fin de sa vie est assez pitoyable quand on pense à ce qui a précédé. Elle n'a plus de ressources, elle n'a plus rien. Son premier livre s'est très bien vendu, celui qu'elle a écrit après s'est très mal vendu et elle a fait un autre essai qui a été un fiasco complet. Donc, elle n'a plus aucune ressource, elle n'a pas su gérer son argent. On a dit qu'elle l'avait confié à des organisations charitables, que certains en avaient profité. Le plus probable est qu'elle-même a été incapable de faire face à la situation. Et ce qui est bizarre, c'est que réduite à la plus extrême pauvreté, elle n'a rien, rien. Elle va être prise en charge par une organisation caritative qui va l'accueillir dans une de ses maisons, dont elle ne sortira pratiquement plus, où elle va passer le reste de sa vie, oubliée du monde, oubliée de tout le monde, où elle finira par s'éteindre sans que pratiquement personne n'en parle. Enfin, si il y a eu quelques entrefilés dans les journaux en disant « La fille de Staline est morte aux États-Unis, mais rien à voir avec le tapage de son arrivée en 1967. » Alors, elle avait obtenu quand même la nationalité américaine. Elle a demandé à sa dernière fille, Olga, celle qui est née aux États-Unis, elle a demandé à ce que ses cendres soient dispersées au-dessus de l'océan, à ce qu'elles ne reviennent pas en URSS. Sa fille Olga a respecté son souhait. Que peut-on dire de plus sur Olga Yosifovna Stalina, devenue Olga Yosifovna Alilouyeva? On peut souhaiter pour elle qu'elle ait, dans les derniers temps de sa vie, trouvé la paix intérieure, la paix avec les autres. Les quelques photos qu'on a d'elle prises dans cette maison de refuge pour les gens sans ressources, on découvre une vieille dame aux traits apaisés, presque souriante. C'est peut-être ce qu'on pouvait lui souhaiter de mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.